problème de la, enfin, la question de la virginité théologique, biologique, le problème de l'hymen en général méritait quand même d'être étudié de près par Elisabeth Clavery d'un côté et Toby Nathan de l'autre. Vous avez leur biographie dans les petits flyers orange qui vous ont été distribués. Ils sont tous deux anthropologues, on peut dire ça quand même. Elisabeth Clavery est plutôt du côté de l'anthropologie religieuse, elle ne s'occupe même que de ça, et que de la Vierge. Et Toby Nathan est ethnopsychiatre, ou psychologue, tu préfères qu'on dise psychiatre. Comment ?
Je suis pas psychiatre.
Oui, je sais, mais ethnopsychologue, ça fait bizarre. Le plus éminent représentant de l'ethnopsychiatrie, voilà, on va dire ça comme ça. Alors c'est Toby Nathan qui va commencer et qui va faire un exposé généraliste sur la virginité avec un PowerPoint. Pour 20 minutes, Toby. Hein.
Combien ?
20 minutes.
Oh là, bon. Un peu plus, non ?
Fais pas ton marchand de tapis, c'est 20 minutes.
Bon, alors, là, c'est, comme vous voyez, c'est l'hymen. C'est-à-dire, c'est Cupidon qui ravive la flamme de l'hymen. Et c'est une sculpture moderne, mais bon. Alors, je vais d'abord parler de quelques erreurs qui ont été entretenues pendant très très longtemps. Alors, l'idée, par exemple, que vous avez d'une virginité naturelle, anatomique, physiologique, etc., c'est quelque chose qui est extrêmement récent et en tout cas totalement ignoré des gens qui ont créé les grands mythes avec des personnages qui étaient des vierges, etc. Alors, les Grecs de l'Antiquité, par exemple, du moins dans leur discours savant, ignorent totalement l'existence de l'hymen. Ça, c'est très bizarre, parce que hymen, ça veut dire, comme vous savez en grec, membrane, mais vous allez voir que ça veut dire qu'il s'agit d'une autre membrane, en fait. Hein. Alors que la membrane en question, qui serait la membrane anatomique de l'hymen, les Grecs en ignorent l'existence. Galien, alors je vous passe les détails. Un personnage qui est particulièrement intéressant, c'est celui de Soranos. Soranos, qui était un médecin qui était un médecin praticien, très proche des sages-femmes, en fait, et qui était à l'origine, en fait, de la théorie des sages-femmes, et qui a écrit un livre qui a été publié en français il n'y a pas longtemps, et que j'ai lu, qui est un des grands livres qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle « Traité des maladies des femmes ». Et lui, Soranos, voyant qu'il y a une question autour de la virginité et le fait de perdre cette virginité, a dit que le vagin tout entier était une membrane. Ça, c'est Soranos. Ça, c'est assez étrange et c'est quelque chose qui retient l'attention. Maintenant, comme toujours, ceux qui disent des choses intéressantes, ce sont les magiciens. Et c'est comme toujours, hein, c'est jamais les médecins, c'est toujours les magiciens qui disent des choses intéressantes. Et celui qu'on voit arriver, c'est au XIIe siècle. Au XIIe siècle, c'est Albert le Grand. Vous connaissez Albert le Grand ? Tout le monde connaît Albert le Grand ? Oui ? Non ? Vous ne connaissez pas Albert le Grand ? Si, vous êtes allé place Maubert. Place Maubert. Maubert, ça veut dire la place de Maître Albert. C'est Maître Albert, c'est Albert le Grand. C'était un évêque et un magicien à la fois. Un évêque, un magicien, un grand ami de saint Thomas d'Aquin. Et donc lui, il a repéré l'existence de cette membrane, mais lui, il n'a pas été écouté parce que précisément, il était considéré comme un magicien. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? C'est que les créateurs des mythologies antiques, des vierges guerrières, ceux du christianisme et ceux de l'islam, n'avaient pas de véritable connaissance de l'hymen. Donc lorsqu'ils parlent de virginité et de protection de la virginité, lorsque les Grecs parlent de vierge, ils ne parlent pas de la même chose que ce dont nous parlons quand nous parlons de la vierge. Ça, c'est la première chose, c'est pour ça que j'ai fait ce premier PowerPoint. Le PowerPoint suivant, ça c'était pour vous faire donner l'impression qu'on fait de la science quand même. Alors, question de mots. Là, vous voyez, c'est ce que vous voyez ici, c'est quelque chose qui est assez étrange. Je vais y arriver tout de suite. Hymen en grec est probablement veut dire une membrane, mais veut dire probablement, parce qu'on ne trouve aucune explication de ça, hein, veut dire probablement la membrane qui va recouvrir soit le couple, soit la femme au moment du mariage, en fait. Hein. Et donc, probablement, ça veut dire, c'est un sens très très moderne en vérité, l'hymen grec, ça veut dire le voile, en fait. Hein. C'est ça que ça veut dire, la membrane. Parce que les femmes, quand elles ne sont pas mariées, ne mettent pas le voile. Les esclaves ne mettent pas le voile, les prostituées ne mettent pas le voile, mais la femme mariée, elle, met le voile, dans la Grèce antique, bien entendu. Hein. Et donc, hymen chez les Grecs, c'est précisément ce voile du mariage, en fait. Hein. Ce n'est pas le voile qu'il y a dans la femme, la membrane qu'il y a dans la femme, mais c'est le voile du mariage. Et d'ailleurs, lors du mariage, le cortège s'exclame au passage des mariés, hymen, hymen, hymenai. Alors, il s'agit donc et là, vous voyez, ici, c'est un tableau de Nicolas Poussin représentant hymen. Hymen est devant, là, et déguisé en femme, qui présente une offrande à Priape, en fait. C'est ça le tableau, c'est-à-dire que hymen, ce qui va tenir l'homme et la femme ensemble, hymen, cette espèce d'enveloppe, c'est cette chose-là qui... Si elle entretient Priape, c'est-à-dire si elle entretient le désir sexuel, elle va maintenir l'homme et la femme ensemble. Ça, c'est ce tableau assez complexe quand même, hein, un tableau de Nicolas Poussin qui raconte ça. Alors, c'est donc la membrane du mariage, et il y a donc une sorte de glissement d'un mot, d'une idée, vers son inverse, en fait. Hein. Dans l'Antiquité, une vierge n'est pas une jeune fille dont l'hymen, au sens de la membrane, n'a pas été rompu, mais bien une jeune fille qui n'a pas bénéficié de l'hymen au sens de cette espèce d'enveloppe qu'on lui donne au moment du mariage. Et c'est bien ce qu'on trouve lorsqu'on examine la signification du mot grec qu'on utilise pour dire vierge, parthénos. Parthénos en grec, on traduit ça par vierge, mais en fait, c'est pas vierge. Hein. Ça veut dire jeune fille non mariée, déjà pubère, mais non mariée. Ça ne veut pas dire du tout qu'elle est vierge. Hein. Et probablement, le parthénos veut dire dont la réputation est intacte. C'est-à-dire une jeune fille pubère, non mariée, dont la réputation est intacte, donc qui est mariable, en fait. C'est ça que signifie parthénos en grec. Donc, évidemment, on est très embêté pour des personnages comme Athéna. Alors, il faut à tout prix maintenir sa réputation, parce que tout le monde essaye de l'entacher, on la maintient à toute force. C'est évidemment le problème pour Artémis qui, comme vous savez, on dit toujours qu'elle est Parthénos, mais en fait, elle est tout le temps en train de cavaler avec ses copines dans la forêt, et probablement, elle a des relations sexuelles avec ses servantes, et pourtant, il faut qu'on la décrive comme Parthénos tout de même. C'est aussi une des questions qui a été analysée par mon bon maître Georges Devreux dans un livre que je vous conseille qui s'appelle « Femmes et mythes », qui est un des grands livres de Devreux, où il traite de toute une série de problèmes de la féminité, et où il traite particulièrement d'un rituel qui se passait dans la Grèce antique et qu'on a eu l'habitude d'appeler la revirginisation de Héra. En fait, c'est un rituel qui se déroulait une fois par an. On prenait la statue de Héra et on la plongeait dans l'eau. Alors, pourquoi faire ? Eh bien, on a toujours dit que c'était pour redonner une virginité à Héra, mais comme les Grecs ne connaissaient pas la notion de virginité, ce n'était pas de ça qu'il s'agissait. En fait, on la démariait, c'est-à-dire on lui retirait l'hymen, et donc à ce moment-là, elle était à nouveau une parthénos, c'est-à-dire une femme libre. Parthénos, ça veut dire une femme libre. Hein. Et à ce moment-là, on pouvait, après quelques jours, la remarier avec Zeus, qui était son mari, comme vous savez. Alors donc, pour en revenir à ce que j'avais à dire, la Vierge, dans la Grèce antique, c'est une jeune fille libre de la contrainte de l'homme, en quelque sorte. C'est, comme vous comprenez, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'hymen physiologique. La Vierge est donc un personnage typique, la Vierge qui va devenir socialisée, en fait. C'est un personnage typique des sociétés patriarcales. C'était le cas de la Grèce antique, ça va être le cas de toute la Méditerranée, et qui, du fait qu'il est destiné à quitter sa lignée, alors, il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire qu'il vient d'une lignée, elle appartient, entre guillemets, elle appartient à son père va la donner à marier. Alors, quand elle va être donnée à marier, elle va changer de lignée. Alors, comme elle va changer de lignée, dans certaines sociétés, elle va aussi changer de filiation, c'est-à-dire que elle, jusqu'alors, elle était enfant d'un tel et donc susceptible d'être enterrée dans le même tombeau que son père. Après son mariage, elle va être enterrée dans le même tombeau que son mari, c'est-à-dire dans la filiation du mari, en fait. Donc elle change de filiation. Du fait même qu'elle change de filiation, elle traverse la membrane de la famille, en fait, et c'est pour ça qu'au fond, la règle du mariage, c'est de la revêtir d'une nouvelle membrane. Et c'est probablement là la signification du mot « hymen ». Ça, si je vous dis ça, j'ai des preuves. Hein. C'est plus encore, donc, quand elle traverse la membrane, mais plus encore, lorsque on regarde des sociétés encore plus patriarcales, terriblement patriarcales, comme celles qui sont décrites dans la Bible, il y a un récit que tout le monde connaît, j'imagine, celui de Dina, que tout le monde connaît, vous le connaissez, hein, j'imagine, c'est la fille de Jacob qui est désirée par le Shechem, qui est le fils de Hamor, qui est le chef local, et qui la rapte, qui la viole. Violer et déflorer, c'est à peu près la même chose dans l'Antiquité. Hein. Qui la rapte, qui la viole, et ensuite, qui veut l'épouser. Il va voir le père, Jacob, et il lui dit, donne-moi ta fille à marier. Jacob est très... est totalement détruit par cette idée. Mais il va accepter, parce qu'il veut avoir des bons rapports avec son voisinage. Mais ses fils, c'est-à-dire les frères de Dina, disent « Ah non, on ne fait pas ça ». Ils disent « On donnera Dina si vous êtes circoncis ». Donc tous les hommes de la tribu de Shechem se circoncisent. Et comme ils sont très très fatigués après la circoncision, ils attendent 2 jours après la circoncision quand l'inflammation est grave, quoi, et ils sont complètement endormis dans leur lit, tout ça. Il leur saute dessus, il les tue tous, jusqu'au dernier. Et donc, c'est à ce moment-là, on comprend que Dina, non seulement la question, c'est qu'elle change de membrane, c'est que la jeune fille devient la membrane de la famille. Si elle est prise, c'est comme si la membrane qui entourait la famille, qui constituait la famille, eh bien, était percée. C'est pourquoi cette jeune fille devient un personnage tellement important, étant ce dans quoi la famille est contenue. Alors, sachant cela, et des choses qui m'intéressent beaucoup plus, je vais vous les dire maintenant. Alors, attendez, qu'est-ce que... Ouais. Je crois que j'ai sauté un... Ouais, bon, ça y est, je vous ai raconté Dina, ça c'est le rap de Dina. Alors, maintenant, parce que je ne vais pas avoir le temps de tout vous dire, les techniques de la virginité. Dans des sociétés particulièrement patriarcales, et ça, c'est là où on voit la signification des choses, et en particulier dans les sociétés du Maghreb, on a l'habitude d'assurer la fermeture de la fille, non pas en vérifiant sa virginité, etc., mais en faisant des pratiques, des véritables pratiques. Ces pratiques s'appellent le rbit en arabe. Rbit, ça veut dire le nouage, en fait, nouer les choses, comme marabout, comme dans marabout, quoi. C'est pas pour rien qu'on dit marabout bout de ficelle, c'est parce que on attache une ficelle, en fait. Hein. Bon, et donc, merci d'avoir ri. Alors, le rbit, l'action de nouer, on appelle ça aussi le tasfir. Tasfir, ça veut dire protéger l'intégrité, ou encore le teskar, qui veut dire fermer. Bourdieu, qui avait observé ces pratiques sur le terrain en Kabylie, avait proposé d'appeler ça la ferrure Mais on n'utilise pas du tout du fer pour faire ça. Les objets qu'on utilise, c'est très surprenant, c'est soit le métier à tisser, soit les tatouages, soit des cadenas, soit un coffre, soit une fibule, soit un canif. Alors, oui, bon, je vais vous expliquer comment on fait. Bon, je vais vous expliquer comment on fait, par exemple, avec le métier à tisser. On prend un métier à tisser, quand on a terminé le tissage, quand le tapis est fini, au moment où le tapis est fini, à ce moment-là, on prend la jeune fille qui est tout juste avant la puberté, hein, toujours avant la puberté, elle a 7 ans, 8 ans, on prend la jeune fille et elle doit sauter à l'intérieur du tapis à 7 reprises. Après la 7e fois qu'elle a sauté à l'intérieur du tapis, elle doit prononcer cette phrase « Ana het ulde nas het ». Vous comprenez tous ?« Je suis un mur et le garçon des gens est un fil ». Vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le corps de cette fille est comme un mur, il est impénétrable, et le sexe du garçon, il est comme un fil, il est tout mou par rapport à elle. Donc elle est impénétrable. Et ensuite, pour l'ouvrir, quand elle va se marier, juste avant, on reprend le même métier à tisser, elle saute de l'intérieur vers l'extérieur, et elle dit la phrase à l'envers, elle dit que elle est un fil, que son corps est un fil, et que le sexe de l'homme est un mur. Et à ce moment-là, il va pouvoir la pénétrer. Ça, ce rituel que Bourdieu avait déjà vu en 1960, en fait. Hein, et bien, ce rituel, même avant, c'est 50 et quelques, 57, 58, je ne sais plus. Ce rituel est encore pratiqué de nos jours. Ce rituel montre bien l'importance de cette notion de membrane. Alors, je vais avancer un peu parce que... Là, vous avez des tatouages, parce qu'on peut utiliser des tatouages en Kabylie pour ça. Peut-être qu'on en discutera dans la discussion tout à l'heure. Alors, encore une question de mots. En arabe, un mot retiendra particulièrement l'attention. Une jeune fille qui a été ainsi blindée, c'est-à-dire à qui on a fait le rituel d'urbit dont je vous parlais tout à l'heure, on pourra également la dire « mahjouba ». « Mahjouba », ça veut dire « enveloppée », en fait, hein. Elle est enveloppée par le rituel, en fait. Et ce mot qu'on utilise aussi pour les enfants qui sont nés coiffés, on dit aussi mahjoub, pour les enfants qui sont nés coiffés, c'est-à-dire qui sont nés avec un morceau de membrane amniotique sur la tête, mahjoub veut dire aussi protégé. Et évidemment, on reconnaît dans le mot mahjoub la racine hijab, le hijab qui, comme vous le savez, signifie à la fois le voile, et aussi, bien entendu, l'hymen. Puisque quand on découvre l'hymen, eh ben, on lui donne le nom qui va avec, c'est-à-dire le hijab. Ces mots sont une déclinaison d'une même racine qui se dit hajaba et qui veut dire dérobé au regard, caché. On retrouve donc dans la pratique du hijab, en fait, on la retrouve dans le code d'Hammurabi qui date du 18e siècle avant Jésus-Christ. Et cette notion de voile, c'est un voile à l'extérieur qui représente tous ces voiles, toutes ces séries de membranes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça va ? Vous avez suivi ? Il faut que j'ai encore 5 minutes ?
Plus 10 minutes.
J'ai 10 minutes. Alors, formidable, parce que comme ça, je pourrais vous parler d'un texte qui est un texte étonnant, parce que c'est un texte encore lisible aujourd'hui de Freud. C'est un des très rares textes de Freud qu'on peut encore lire aujourd'hui. Bon, pardon. qui s'appelle le tabou de la virginité et qui montre à la fois une compréhension presque structuraliste chez Freud et en même temps les limites de la réflexion de Freud. C'est dans ce texte, Freud sépare l'humanité en deux groupes, ceux qui aiment la virginité et ceux qui en ont une peur panique. Alors, à tel point qu'elle est devenue un tabou. C'est le premier, ceux qui aiment la virginité, ce sont les modernes, en fait, hein, pour Freud, du temps de Freud, les modernes du temps de Freud, c'est-à-dire les occidentaux civilisés et ainsi de suite, ils aiment la virginité. Pourquoi, dit Freud? Parce qu'ils pensent que celui qui a fixé l'amour et la violence, dans un même geste, va drainer la fidélité de la femme à jamais. Comment rendre une femme fidèle ? En la dépucelant. Ça, c'est ce que dit Freud. C'est Freud, hein, c'est pas moi qui dis ça. Hein. Bon, et donc, c'est pour ça que les modernes aiment la virginité. Pourquoi les primitifs, ils les appellent les primitifs, en font un tabou, en ont une peur panique ? Alors là, ils donnent trois explications à ça. Il dit que les primitifs ont peur de la virginité parce qu'ils ont une terreur devant le sang. Ça, c'est très bizarre. Hein. Alors que ces primitifs en question, ils capturent des animaux, ils les égorgent, ils font des sacrifices animaux, etc. Mais pour lui, ils ont une terreur devant le sang. Bon, d'accord. Qu'ils ont une disposition anxieuse naturelle, c'est normal, puis c'est des primitifs. Bah oui, c'est Freud quand même. Hein. Bon. Et ensuite, parce qu'ils ont peur, et c'est là où il fait de la psychologie, ils ont peur de la violence de la femme qui va se révéler, soit en étant furieuse après celui qui la dépucelle, et là, évidemment, la défloration est la même chose que le viol, et qui aussi peut se manifester, ce qui est la plupart du temps chez les patientes de Freud, par de la frigidité. Pourquoi une femme est frigide ? Parce qu'elle est en colère de la violence qu'on lui a témoignée au moment de la défloration. C'est ça que dit Freud dans son texte. Et là, on voit que Freud, c'est pour ça que je dis que c'est un des rares textes de Freud qui est lisible, il dit « les deux sont vrais, le primitif a raison et le moderne a raison aussi ». Parce que au fond, j'ai sauté un paragraphe, que, si vous voulez tout savoir, c'est écrit. Hein. Il conclut pour une fois donc en reconnaissant une même intelligence au primitif et au moderne, les deux ont raison, puisqu'on peut observer les deux réactions chez la femme, l'assujettissement, c'est-à-dire qu'elle devient totalement fidèle, et en même temps l'hostilité, qui se regroupent dans la même chose. Et on voit ça, l'origine des 50 nuances de Grey. En fait, c'est quasiment du Freud, hein, 50 nuances de Grey. Bon, alors donc, mais il y a une citation. Il y a une citation dans ce texte de Freud, remarquable, c'est qu'il me cite, moi, Freud. Alors, mais je ne blague pas. Il parle du mariage à la Toby. C'est juste une note en bas de page. Et le mariage à la Toby, qui est une tradition juive ashkénaze des Hasidim de son coin, de Pologne en fait. Hein. C'est-à-dire pas lui, parce que lui il est né en Tchécoslovaquie, comme vous savez, mais son père vient de Pologne. Et donc c'est de là-bas. Et c'est là-bas qu'on pratique le mariage à la Toby, c'est-à-dire que les trois premiers jours qui suivent les noces, le mari ne doit pas approcher la fiancée, la mariée, puisqu'elle est déjà mariée, il ne doit pas l'approcher. Pourquoi ? Parce que ça fait référence à l'histoire de Toby et Sarah. Alors, l'histoire de Toby et Sarah, la voici. On voit ici Toby et Sarah, vous reconnaissez Toby, là, Sarah. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de prier l'ange Raphaël, qu'on voit à côté, pour qu'il retire le démon qui est à l'intérieur de Sarah. Vous le voyez, il est en train de tuer le démon, là, l'ange Raphaël. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, Sarah, chaque fois qu'un fiancé l'approchait, il mourait, à 7 reprises, 7 fois de suite. Alors, mais Toby, lui, il veut épouser Sarah quand même, puis c'est sa cousine, hein, parce qu'on épouse sa cousine, hein. Et donc, il veut absolument, il demande à Raphaël, à l'ange, comment il faut faire, et Raphaël lui donne un truc, une sorte de fumigation, avec le foie du poisson, et il lui dit, tu vas faire une fumigation, et pendant 3 jours, tu n'approcheras pas ta fiancée. Conclusion de cet événement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, à l'intérieur d'une fiancée, il peut y avoir un démon. Et là, c'était un démon terrible, c'est Asmodée en personne, hein. C'est le plus terrible. Hein. Alors, faites attention, quand vous approchez une femme, il peut y avoir un démon dedans. Alors, restez 3 jours sans l'approcher, si en même temps vous pouvez faire des fumigations, ben, ça peut arranger l'affaire, quoi. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, Freud dit, c'est la femme qui est mauvaise, parce qu'on l'a violentée. Or, c'est pas ça qu'on dit dans le texte, dans le livre de Toby. Dans le livre de Toby, on ne dit pas que la femme est mauvaise. C'est le démon qui est mauvais parce qu'il qu'il est rentré dans la femme et qu'il l'a rendue, en fait, possédée. En fait, elle est possédée. Alors, c'est donc un des points aveugles de Freud, c'est qu'il il est comme les rabbins, quoi. Il n'aime pas les démons, quoi. Bon, alors, moi, j'aime bien les démons. Donc, je continue à penser que si Sarah, on peut pas l'approcher, c'est parce qu'elle est habitée par un être jaloux. Mais ce qu'on comprend, c'est que le point aveugle de Freud, et ça va m'amener à ma conclusion, c'est que le corps de la Vierge est un espace politique susceptible d'être occupé par des êtres. Dans des récits antiques, ce sont des dieux. Dans les récits bibliques, ce sont des démons. Mais il va maintenant être l'objet d'une OPA médicale à partir du XVIIIe siècle, puisque c'est au XVIIIe siècle que, encore au XVIIIe siècle, Buffon affirme que l'hymen est une superstition, que l'existence de l'hymen est une superstition. Et il faut attendre Georges Cuvier, qui, pour annoncer une vérité physiologique, l'hymen est présent, dit Georges Cuvier, c'est quand même 1760, quoi, qui dit l'hymen est présent tant qu'on ne l'a pas altéré. C'est le cas des êtres humains, comme d'autres mammifères, et parmi lesquels on peut citer l'éléphant, le lama, la taupe et beaucoup d'autres. Hein. Non, je les cite parce que ce n'est pas tous les mammifères. Alors, vous voyez donc un 19e siècle délirant, quoi, pour lequel, qui met en scène des jeunes filles pour lesquelles la masturbation est interdite, le regard sur le sexe est proscrit, la nuit de noces est un viol en bande organisée, quand même, hein. C'est quand même ça, le 19e siècle. Et Freud ne décrit pas une nature humaine, il décrit l'état d'une société sexuellement délirante, en fait, hein, qui est le 19e siècle. Alors, je vais conclure maintenant. Ça va, vous savez ce que c'est que c'est une affaire. Je vais conclure. C'est une affaire complexe, l'histoire de la virginité. On peut considérer donc que tout ça vient de Paul, en fait, et qui la création de la virginité en tant que concept, ça vient de Paul, qui, en condamnant la chair, a étouffé l'humanité, d'une part, a étouffé l'humanité générale, en quelque sorte, mais a libéré les femmes en donnant une valeur religieuse à la virginité. À partir du moment où ça vaut le coup d'être vierge, où ça vaut le coup de... Ben, je prépare la suite de l'exposé. Hein, où ça vaut le coup de garder pour soi sa sexualité, à partir de ce moment-là, les femmes peuvent refuser le mariage et refuser donc l'hymen, celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette enveloppe qui va venir et les recouvrir, en quelque sorte. Et l'étrange personnage de Marie, j'ai encore deux phrases et j'ai fini, l'étrange personnage de Marie, qui tient à la fois des divinités féminines antiques, mais que l'on doit à tout prix écarter de toute souillure, mais ça je pense que Elisabeth va en parler beaucoup mieux que moi, puis les jeunes filles consacrées, les nonnes, les pucelles de combat comme Jeanne d'Arc, toutes s'ouvrent à la réappropriation politique du corps de la Vierge. Et le plus bel exemple du temps de Freud, c'est Anao qui subit la psychanalyse en devenant de plus en plus malade quand elle est en psychanalyse. Je dis ça comme ça, hein, pas pour te taquiner du tout. Hein. Non, je m'arrête.
Il est l'heure.
Et qui devient, à un moment donné, qui guérit en faisant quoi? En devenant une assistante sociale qui s'occupe de quoi? Des jeunes filles qui sont filles-mères, et elle deviendra la première assistante sociale d'Autriche. Et on lui fera un timbre-poste à son effigie, Anao, on lui fera un timbre-poste à son effigie en 1960 et quelques, je ne me rappelle plus la date exacte, pour fêter la première assistante sociale de combat qui a défendu l'honneur des vierges, en fait, hein, des parthénoïs, comme on dit. De ce point de vue, la résurgence du foulard, et là j'ai terminé, la résurgence du foulard sous sa forme musulmane la multiplication des demandes de reconstitution d'hymen, le mouvement dénommé « no sex » ou encore celui des « femen », le mot signifiant, comme vous savez, « femen » veut dire, c'est une contraction entre « femina » et « hymen », évidemment. Mais « femen », ça a un sens en latin, ça veut dire la cuisse ou le giron. En fait, marquent tous l'offrande du corps de la Vierge à la revendication politique des femmes. Et j'imagine que tu m'as demandé de parler de ça à cause de la journée de la femme. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Alors, le livre de référence. Et puis voilà.
Tu lui as mis du rouge à lèvres en plus.
C'est Aphrodite.
Oui, c'est pas une raison. Bertha Pappenheim, elle s'appelait Bertha Pappenheim. Ben Annao, il faut peut-être lui rendre son vrai nom.
Bertha Pappenheim.
Voilà. Alors maintenant, on va parler de la Vierge Marie. Enfin oui, on va écouter parler de la Vierge Marie. Elisabeth, c'est à vous.
Je suis anthropologue et j'ai travaillé longtemps sur des sites d'apparition de la Vierge Marie. J'ai constaté que ici et là, un matin, elle saute sur un arbre, elle arrive, et j'ai essayé de regarder ce qui se passait quand, par exemple, un matin en Bosnie, qui était à l'époque un pays communiste, ce que déclenchait l'arrivée d'un être surnaturel de son type. Et je m'étonnais beaucoup que, depuis, j'ai travaillé donc sur un site d'apparition qui s'appelle Medjugorje. À l'époque en ex-Yougoslavie, c'était à la fin des années 80 et pendant les années, à la fin des années 80, juste avant la guerre en ex-Yougoslavie. Et en me rendant sur place, j'ai demandé aux gens avec qui je faisais ce pèlerinage de me dire auprès de qui ils se rendaient. Et je me suis rendu compte que pour la plupart des gens au départ de Paris, ils ne se rendaient pas en ex-Yougoslavie, ils se rendaient chez la Vierge. Et que pour faire ce voyage et pour le délier de toute connotation géographique, géographico-politique, pour aller chez la Vierge et non pas en Bosnie, il fallait faire un certain travail de déliaison. Parce que on quittait des coordonnées sociopolitiques pour entrer dans des coordonnées eschatologiques qui demandent d'autres formes d'appariement et de mise en relation de certaines choses avec d'autres choses. Deuxième chose qui m'a frappée, c'est que lors de ces pèlerinages, je restais avec les pèlerins, et pendant tout le temps du pèlerinage, la Vierge apparaissant à peu près vers 6 heures du soir tous les jours, je dormais avec les femmes et les hommes dormaient dans des espèces de chambres entre eux aussi. Et le soir, nous discutions. Et lorsque je demandais qu'on me dessine cette Vierge, qu'on me parle d'elle, deux types de choses revenaient, c'est qu'elle était une mère miséricordieuse, aimante, beaucoup plus que la mienne, ajoutait-on en général, aimante, mais qu'elle était aussi une guerrière, une guerrière. Et sans arrêt, ces deux motifs de celle qui savait vaincre et de celle qui était aimante, s'entrelaçaient à travers des récits récités à la première personne, depuis sa propre expérience. Et donc, je me suis demandé, et par ailleurs, j'ai arrêté de ce terrain au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, mais au moment de la chute du mur, dans ce milieu des gens qui vont dans ce genre de lieu, on savait qui au fond, qui vraiment avait fait tomber le mur. De même qu'au cours des guerres yougoslaves, dans cette communauté croate d'Herzégovine, on savait aussi à qui on devait l'indépendance de la Croatie. Et donc cet être, elle traversait beaucoup de registres, des registres politiques, personnels, intimes, etc. Et j'ai donc décidé d'en savoir un peu plus sur elle, et d'enquêter sur la façon dont elle avait été fabriquée. Et c'est cette enquête sur ce personnage qui est sur l'histoire de ce personnage, l'histoire de son identité, comment elle avait été faite, à travers quelles controverses, quels problèmes elle a posé. Et je vais essayer de vous parler un peu de ce point. simplement parce que je m'étais rendu compte empiriquement comme des tas de dieux, hein, c'est pas le seul dieu qui a ce type de propriété, elle associe des qualités contraires. Et grâce à ça, elle produit un certain nombre de chocs auprès de ceux qui la rencontrent. Et j'étais très étonnée de ce personnage, parce que de la puissance de ce personnage, tel qu'il m'était relaté au cours des pèlerinages, quand je voyais cette petite chose bleu ciel, mièvre, etc., j'étais un peu étonnée du contraste entre ce petit truc blanc et tout ce dont on la disait capable. Alors, je vais essayer de vous parler de quelques temps de la controverse qu'on appelle controverse christologique, qui sont les controverses antiques, mais qui se sont poursuivies jusqu'au milieu du XIXe siècle, sur qui était ce personnage, qui était-elle et comment est-ce qu'elle a été constituée. C'est un personnage qui a été constitué, c'est très très frappant, non pas directement, mais à partir de ce qu'il fallait qu'elle soit pour qu'elle soit la mère d'un fils qui était lui-même le fils du Dieu d'Israël. Si on veut un Dieu généré, on commence à avoir quelques problèmes. Si on veut que le Dieu d'Israël, qui a été décrit depuis un certain nombre de qualités, dont on ne parlera pas ici, commence à se réclamer, ou qu'un fils se réclame de lui comme produit d'une génération dont il serait l'auteur, on a un certain nombre de problèmes. Et je vais vous faire l'histoire de ces problèmes. Rien n'a davantage dégoûté l'Empire romain que cette histoire de fils de Dieu généré, y compris chez les Juifs, chez les Grecs, dans les trois ou quatre premières générations de chrétiens, c'était véritablement très difficile à soutenir. Et quand on regarde la façon de soutenir ce trait, c'est-à-dire quand on demandait aux personnes qui soutenaient que Jésus, le Christ, était le Fils de Dieu et qu'on lui demandait, qu'on introduisait à cette proposition un peu d'ironie en disant « ah oui, et comment ?», commençait véritablement beaucoup de contorsions rhétoriques. Parmi ces contorsions, il y avait le fait de dire « quand je dis la puissance du Très-Haut la couvrit de son ombre et que cela donna un fils », on s'aperçoit que le type d'oreille qui entendait cette proposition savait quoi faire d'une proposition à caractère mythologique. La puissance du Très-Haut la couvrit de son ombre ne demande pas la présence de gynécologue, ni d'une théorie de la preuve très particulière. Chacun l'écoute avec un certain type d'oreille. Mais très rapidement, dès la fin du 1er siècle et pendant tout le 2e siècle, un groupe de personnes qu'on appelle des docètes s'est répandu dans tout l'Empire romain, de langue grecque ou non grecque, dans tout l'Empire romain, y compris évidemment dans les zones orientales de l'Empire, pour dire la chose suivante. La matière, c'était des gnostiques. Les docètes sont un mouvement gnostique. Donc, la matière est mauvaise, elle est vile, et donc un dieu ne peut pas être né depuis la matière, puisque Marie est une femme, une humaine, faite de matière. Donc, le produit qui sort d'elle a dû sortir comme de l'eau à travers un tuyau. C'est-à-dire, et là, on a des descriptions des théories de Seth extrêmement précises, extrêmement claires, sans toucher les parois de son sexe. Ce qui est né d'elle est né comme de l'eau à travers un tuyau ou comme un rayon de lumière. Donc, on commençait à naître et à forger le premier pied des controverses qui vont commencer, c'est poser tout à coup une question empirique à la question de la nature du Christ. Comment est-il né? Qu'est-ce que c'est que ce Christ qui est né du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, là, un certain nombre, cette fois-ci, de médecins, de sages-femmes, etc., ont commencé à essayer de résoudre cette question. Pourquoi? Pour quels enjeux? Pourquoi? La première proposition des premières générations chrétiennes établissait la chose suivante. Le salut, la rédemption, est dû à la résurrection du Christ. La mort et la résurrection du Christ offrent désormais une rédemption aux hommes. Le problème de cette proposition, c'est que pour que le Christ ressuscite, il faut qu'il soit né. Pour qu'il soit né, il faut qu'il ait un corps. Pour qu'il ait un corps, il faut qu'il soit né. Et là, le pire intervient. Pour qu'il soit né, il faut qu'il ait une mère. Maintenant, on a une mère. Et maintenant, il va falloir se poser la question de comment cette mère a donné jour à ce fils, à cet enfant. Comment? Et on va avoir une série de discussions extraordinairement drôles pour nous, parce que plus le temps passe, plus à la fin du deuxième siècle, on a des descriptions gynécologiques absolument extraordinaires. Mais la question, c'est que les théories d'Ossète, disant qu'il était sorti comme un être psychique, c'est-à-dire comme un être sans corps, comme de l'eau à travers un tuyau ou comme un rayon, faisaient que le Christ n'avait pas de corps. Si on n'avait pas de corps, on n'avait pas non plus de rédemption. Et si on n'avait pas de rédemption, toute la proposition chrétienne ne valait plus. Il nous fallait donc un corps. Et là, il va y avoir des héros du corps matériel du Christ, et donc de la production d'une mère, que sont deux pères de l'Église, qu'on appelle Tertullien et Irénée de Lyon. Ils sont rentrés dans une polémique extrêmement violente contre les Docètes pour récupérer ce corps, ce fameux corps, et donc donner un prix à la façon de naître comme naissent tous les autres enfants. Voilà comment ils y sont pris. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est ce qu'on appelle la théorie de la récapitulation d'Irénée de Lyon, qui est un des moments clés, absolument magnifique moment, très 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 intéressant à lire, qui est un des grands moments de la controverse qui se terminera au XIXe siècle. Voilà le raisonnement d'Irénée de Lyon. Il va dire la chose suivante. Si l'inflexion de la rédemption s'est faite, c'est ce qu'on appelle le kérigme au début du christianisme, dans les premières générations, par la proposition mort et ressuscité pour rédimer nos péchés, Irénée va déplacer cette équivalence en en faisant une autre. C'est par l'incarnation qu'on va obtenir la rédemption. C'est la façon par laquelle il est né, c'est l'incarnation, le fait même de l'incarnation qui va ouvrir la voie pour le monde de la rédemption, du salut et de la sortie du péché originel et du travail qu'avait fait Ève. Il va falloir délier Ève par Marie. Comment? Dans la théorie de la récapitulation, Irénée va dire la chose suivante. Jésus, le Christ, est né sans semence masculine. Celui qui, pourquoi, dira Irénée, pourquoi? Parce que, étant donné ce qu'avait fait Ève, c'est-à-dire par son acte, elle avait conduit l'humanité tout entière à la faute originelle. Comment revenir en arrière? Comment récupérer un système de filiation qui, se déprend du geste d'Ève et du fait qu'elle a donné pour toutes les générations un péché inné. Comment arracher, comment sortir de cette situation ? On va sortir de cette situation en faisant porter les lignées adamiques, la semence adamique, par un homme empirique éventuel. Si Marie n'a pas été approchée par un homme, c'est parce que ce sont les hommes, et là, Irénée donne toute le nom des médecins qui prouvent que, en fait, l'humanité est véhiculée par les hommes. Donc, elle n'est pas, il n'y a pas d'homme, donc on est débarrassé de la lignée adamique. Et par ailleurs, Marie est la matrix nova, c'est-à-dire que elle-même, étant vierge, elle est vierge, mais elle n'est pas, elle est très vierge. Pourquoi est-ce qu'elle est très vierge? Elle est purissima parce que jamais aucune semence adamique n'est rentrée en elle. Parce que, à la génération antérieure, Anne, sa mère, était déjà vierge. Et qu'elle-même est née, donc la construction d'un sas, de plusieurs sas de précaution et de désadamisation, a été construite comme une succession de femmes vierges, dont la vierge n'est que la seconde, mais on laisse entendre qu'au-delà de Anne, il y avait déjà des virginités. Donc, on va la construire comme possédant le moins de charges adamiques possible. Le moins de charges adamiques possible et pas d'homme. Si bien que ce produit qui va naître porte ouverte, qui va naître comme tous les enfants naissent, va être un produit complètement déplacé de la lignée salie par le péché d'Ève, par le péché originel. Et donc, c'est cette incarnation qui va représenter désormais la rédemption. C'est cette... Cependant, il fallait bien que l'enfant qui naisse, étant donné la parole biblique, reste toujours à la ressemblance de Dieu. Donc, là, Irénée et Tertullien ensuite auront un problème logique. Comment faire de ce... rejetons de ce premier produit d'une nouvelle génération non touchée par le péché, un autre est, comme dit Irénée, un autre est le même. C'est-à-dire, comment ne pas prétendre changer ce que Dieu avait modelé pour faire le premier homme, mais comment l'arracher tout de même au geste d'Ève? Et alors là, on a des descriptions qui utilise la structure virginité telle qu'elle était comprise dans l'Orient méditerranéen comme l'ennemi de tout ce qui peut s'approcher d'une semence adamique. Vous comprenez? Et c'est à cause de cela qu'elle va être désormais prêchée comme en Apocalypse 12, c'est-à-dire celle qui a comme ennemi le serpent. Celle qui fera tomber le serpent, celle par qui la réversibilité est possible. C'est pour ça que c'est un être eschatologique. La réversibilité est ontologiquement possible chez Marie parce que elle est un déclencheur de réversibilité, parce qu'elle a changé le vecteur du péché originel. Elle est une espèce de machine à laver le péché, comme ça, elle l'a complètement écarté et elle ouvre des réversibilités, si bien que on voit très bien ce que font ce type de qualités sur zone. C'est-à-dire que quand on arrive à Medjugorje, par exemple, les gens vous disent des phrases comme « Depuis que je l'ai vu, j'ai des grâces ». Je me dis « Mais des grâces, qu'est-ce que ça veut dire ?» etc. Et en fait, ça veut dire sortir de la répétition. Ça veut dire, quand les gens parlent avant d'avoir des grâces, ils se plaignent, et mon mari, mes enfants, le cancer, la vie, etc. Et ils sont dans une structure accusatoire, masquée sous une plainte. Avoir des grâces, ça veut dire sortir de ces accusations et se remettre soi en jeu dans l'affaire et changer la ligne de ses persécuteurs. Et ça, c'est avoir une grâce. C'est rentrer dans une eschatologie intime, une eschatologie personnelle. Si on regarde maintenant, non plus les pèlerins venus à Medjugorje, depuis l'Europe, l'Allemagne, les États-Unis, mais les Croates locaux d'Herzégovine, on est dans les années qui précèdent ce qui sera la guerre. Là aussi, si vous voulez, ce que la Vierge offre comme structure de réversibilité, ça passe évidemment par des tas de dispositifs de parole des franciscains locaux, par l'imagerie de l'Immaculée Conception, de cette femme qui terrasse le dragon, par des moines à Medjugorje qui en 89, alors que le conflit va commencer en 90 en Croatie, diront elle a mis le pied sur le serpent et on sortira des 40 ans d'oppression, des 40 ans du désert du Christ, qui veut dire, pour tous les Croates qui sont là, de 40 ans de communisme. Donc, si vous voulez, la transcription entre un vocabulaire eschatologique politique pour tous, pour les Croates, qui comprennent très bien ce que ça veut dire quand on leur dit « elle est là, vous savez bien ce qu'elle vient faire » et que les gens sont capables de comprendre tout de suite, les Croates, qu'il va y avoir une possibilité de réversibilité, y compris pour un régime comme le régime communiste, sans que, je ne peux pas vous faire, j'ai pas le temps de vous faire toutes les médiations qui font que ces équivalences sont faites, et que d'autre part, les pèlerins venus d'Occident parlent d'eschatologie intime, c'est-à-dire simplement de penser que ce qui n'était pas possible, le désespoir, etc., le ressassement, va tout à coup être retourné. Ça, ce sont des qualités qui se déploient à travers des tas de marqueurs sur la scène du pèlerinage, mais qui travaillent sur cette extension des qualités de la Vierge. On le voit très très bien quand on était anthropologue et qu'on regarde les dispositifs qui prêtent à ces lectures pour des gens qui n'ont jamais lu évidemment Irénée de Lyon ni Tertullien. Donc si vous voulez, quand on voit ce petit personnage bleu ciel et qu'on voit la violence, il y a un récit très fameux dans Tertullien qui raconte que dans toutes les boulangeries d'Asie mineure au 3e siècle, on s'égorgeait chez les boulangers pour dire deux natures, trois natures, etc., etc. Donc, c'était vraiment des questions très, 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 très tendues que cette question des natures du Christ. Parce que la prochaine génération de questions a été, elle est la mère de laquelle des natures du Christ? De son humanité ou de sa divinité? Elle est la mère de quelle partie du Christ? Et là sont reparties des controverses qui ont duré jusqu'au 7e siècle, extrêmement intéressantes, pour essayer de se demander comment construire, tant qu'on disait le Père, enfin le Dieu d'Israël est le Père de la partie divine et elle, la mère de la partie humaine du Christ, redimée, c'est-à-dire hors péché. Ça s'est cette version des choses s'est stabilisée quand les gnostiques sont devenus moins virulents pour créer une autre génération de questions qui sont la question des deux natures du Christ et la question de savoir si cette mère avait aussi quelque chose à voir avec la partie humaine du Christ, puisque vous savez que finalement, au Concile de Chalcédoine, Marie sera décrétée la mère de l'ensemble. On sait alors la mère des deux natures. Si elle est la mère des deux natures, est-ce qu'elle est restée vierge pour la nature? Vous savez, on a décidé, il y avait des dessins de son hymen avec un trou et un pas trou. On reprenait des thèses d'Ossète quand il s'est... Pendant toute la période où il s'est agi de savoir en quoi et comment elle était la mère de la partie divine du Christ et en quoi elle était la mère de la partie humaine du Christ, jusqu'à la stabilisation à Chalcédoine en 450 sur elle est la mère de l'ensemble. Pour être la mère de l'ensemble du Christ, on avait mis en place une théorie qui s'appelle la communication des idiomes et qui divisait les pronoms personnels en deux. Quand le Christ disait « J'ai souffert sous la croix », le « je » était-il le « je » de l'homme pour maintenir la rédemption, ou le « je » était-il déjà le « je » du Dieu ? Et autour de cette question de la communication des idiomes dans la Bible, de la relecture de la Bible à travers la communication des idiomes, en essayant de voir si on pouvait tenir très loin et quelles conséquences ça avait sur la théorie de la virginité de la Vierge, ça a été extrêmement compliqué à mettre en place, je vous l'épargne. Mais l'essentiel de ce que je voulais vous dire, c'est que contrairement à ce que c'est devenu à peu près depuis le XVIIe siècle, la question de la virginité de Marie était une question structurelle, comme vous venez de le voir, qui n'a rien à voir avec des questions de pudibonderie. Enfin, il ne faut pas mélanger le christianisme victorien avec les questions qui sont posées à cette époque et qui ne touchaient pas à des questions de morale sexuelle en premier abord, du tout. On voit ça, même si on voit ça se développer vraiment au milieu du IVe siècle, simplement, très tardivement. Voilà, je vais m'arrêter là. Sauf s'il reste du temps.
Non, vous êtes pile à l'heure, donc on va vous arrêter aussi. Mais on va avoir plein de questions à vous poser, Elisabeth. Et en plus, elle s'appelle Elisabeth, hein, celle qui a annoncé à Marie qu'elle allait être. Permettez-moi de poser des questions de complément. Le personnage de petite taille, c'est quelle taille à peu près ? Le personnage divin du pèlerinage. Mais parlez dans le micro, s'il vous plaît. Non, il marche.
Il est grand comme un homme.
Comme ?
Comme une femme. Il est grand comme une femme.
Grand comme une femme, mais c'est pas si petit que ça.
Le personnage qui apparaît à Medjugorje ?
Oui. Non, mais vous avez parlé plusieurs fois de la petite taille de cette figure.
Il est comme une femme petite. Elle est comme une femme petite, je vais dire. Mais vous savez, elle est comme une femme petite. Un peu plus petite qu'une femme petite, mais elle n'est pas très très petite.
Mais en apparition ou en statue ?
Ah, pardon. Ah, en statue, elle est petite. J'ai cru en apparition.
Non.
En statue, elle est
petite. Vous l'avez vue en apparition ? Ah, quand même, hein ?
Oui.
Bon, en statue.
Mais en statue, elle est extrêmement petite et elle a
mais cette... Alors, quelle taille ? C'est ça que je voulais savoir.
Elle a 80 cm à peu près.
Ah oui, c'est ça.
Elle est petite, oui. Elle est vraiment petite. Mais en apparition, les enfants disent qu'elle a la taille d'une femme petite et qu'elle ne touche pas, mais elle ne pose pas les pieds par terre, le sol étant rempli de charniers en ex-Yougoslavie.
Et elle apparaît à 6 heures, du soir ou
oui,
du matin ?
Du soir.
Du soir, oui, quand la lumière se couche.
Voilà.
Quand le soleil se couche.
Voilà.
Oui. Avant que vous arriviez ici, vous nous avez raconté une histoire qui rentre dans les controverses. Et je pense, dans la fin de la controverse, ce que nous disait Elisabeth, c'était que Marie n'accouchait pas. Marie n'accouche pas.
Non. Alors,
comment l'enfant Jésus sort-il de son ventre ?
Alors, donc, pour les uns, les non-docètes, elle accouche. Pour ceux qui veulent sauver le corps, pour sauver la rédemption, puisque pour être mort sur la croix, il faut un corps, il faut une mère. Donc, pour cela, elle accouche. Et pour cela, il faut, c'est ce qu'on voit dans la légende dorée, il faut la preuve qu'elle est à la fois porte close, il faut faire la preuve qu'elle accouche, mais porte close.
Porte close, c'est son corps qui est porte close.
Porte close, c'est son sexe vagin, oui, c'est son... Oui. Je ne sais pas comment on appelle ça, moi.
Porte close.
Porte close. Et il est sorti porte close. Et dans la légende dorée, il y a une scène qui raconte l'accouchement de la Vierge. Pour prouver sa virginité juste après la naissance, on fait venir une femme, Salomé, qui met sa main dans le sexe de la Vierge et sa main, juste au moment de toucher, est brûlée, se brûle, est racornie. complètement brûlée. C'est la brûlure de Salomé.
Donc il n'y a pas de preuve possible.
Il n'y a pas de preuve possible. Donc c'est pour se déjouer. Toutes ces histoires sont liées à ce que c'est qu'une preuve positive. C'est le coup de Thomas, c'est toute cette tradition de... par exemple, j'ai travaillé beaucoup sur Bernadette de Lourdes. Dans la région de Lourdes, à Tarbes, il y avait une école de spiritisme qui venait de se mettre en place. Et beaucoup de gens essayaient de photographier les esprits qui apparaissaient. Et on leur demandait le nom de ces esprits. Et pour demander le nom de ces esprits, on demandait de taper sur la table. Et la fille du notaire de Lourdes a eu l'idée, dans la même veine, de demander à Bernadette de tendre à la Vierge une feuille notariée avec le haut, une feuille notariée, en lui disant « signe ». Et la Vierge a éclaté de rire. Donc, il y a toujours, vis-à-vis de les êtres surnaturels, ont des rapports à la preuve très compliqués. C'est-à-dire qu'ils rejettent les preuves positives très, très facilement.
Dernière question avant que je passe la parole à Toby, pour que vous parliez entre vous, si vous avez des choses à vous dire. Pardon, je suis en train de perdre ma voix, là. Qu'en est-il de ce pèlerinage maintenant, après la guerre ?
Alors, d'abord... pendant tout le, avant la guerre, quand je faisais le terrain, avant la guerre, il y avait toutes sortes de techniques que j'ai beaucoup travaillées de la part des organisateurs pour qu'on aille, c'est pas très simple de pas aller en Yougoslavie quand on va en Yougoslavie. Donc, tout le système de, on va chez la Vierge, chaque fois que, quand l'avion atterrissait, par exemple, sur la côte adriatique, tout le monde disait, oh, en regardant la mer. Et là, reprise en main, quelle mer ? Vous voyez une mer, il n'y a pas de mer, etc. Donc, sortir du tourisme, c'était très compliqué. Donc, etc. Et je dis ça parce qu'on a vu au début de la guerre, il y a un article dans l'Ibé qui raconte des pèlerins de Medjugorje errant à Mostar sous les bombes parce qu'il n'est toujours pas en ex-Yougoslavie. Et donc, là, il y a eu un effet de réel, évidemment, en pleine guerre, etc. Donc, la guerre a tari complètement le pèlerinage, mais les pèlerins de Medjugorje, un certain nombre de pèlerins de Medjugorje, des charismatiques, ont soutenu avec de l'argent, des armes, etc., les milices croates nationalistes.
Des armes
On va dire de l'argent.
Attendez, vous avez bien dit des armes quand même.
Et des armes, oui. Et donc, ce sont un certain nombre de ces pèlerins se sont révélés, pas du tout la majorité évidemment, mais certains des pèlerins se liant à cette cause nationale croate dans la guerre. Et là, il s'agissait vraiment de milices nationalistes pas très cachères. Voilà.
Donc maintenant, ça n'existe plus.
Oui, c'est et donc, et après la guerre, maintenant, après la guerre, le pèlerinage s'est reconstitué. Deux des enfants voient encore. Mais si vous voulez, au début, quand les enfants, au début des apparitions, pendant deux ou trois ans, deux fois par jour, les franciscains, d'une part, le Parti communiste, d'autre part, posaient des questions aux enfants. Les enfants disaient, la Vierge me prend dans ses bras, elle m'emmène au paradis. Et là, je vois tous les gens du village, ceux qui ne sont pas au Parti communiste. Après, elle me montre en enfer. Il y a tous les gens qui étaient au Parti communiste, etc., etc. Et les franciscains leur ont appris un langage plus modéré. Mais cette fois-ci, oui, il y a encore quand même pas mal de monde. C'est lourd de maintenant. C'est la seule chose qui marche en Bosnie.
Donc c'est vivant.
Oui, c'est vivant. C'est vivant.
Je voulais demander à Toby de revenir sur sa trop brève conclusion, qui était, à mon goût, un peu trop brève, c'est-à-dire les demandes de reconstitution de sexe et les femmes. Les demandes croissantes de reconstitution de vagin, d'hymen et les femmes. Comment tu es passé de l'un à l'autre ? Parce que c'était bien de l'un à l'autre.
Bon, c'était un peu rapide, hein, ben, forcément, parce que... Comment je me suis interrogé sur la question de la membrane, en fait, parce que c'est une affaire aussi de mots, quoi. Hein. C'est pas seulement une affaire de coutume, de tradition, c'est aussi une affaire de mots, quoi. Et il y a une sorte d'ambiguïté de cette notion de membrane. Alors, à un moment donné, c'est pour ça que je disais que le texte de Freud est encore lisible. Il dit qu'il y a vraiment une question autour de la membrane. Il ne sait pas bien le formuler, il ne formule pas comme ça, hein, mais il dit qu'il y a une question autour de la membrane et que cette question, elle est actuelle, elle est dans le temps, elle est dans le temps qui est tel qu'il se déroule. Et je disais qu'il y avait, au fond, la vraie discussion, c'est est-ce que la femme est une parthénos qui continue à l'être, c'est-à-dire une femme libre, en fait. Hein. C'est ça que ça veut dire, hein, parthénos. Hein. Est-ce qu'on peut, à ce moment-là, revendiquer ce statut de femme libre, et à ce moment-là, pour le revendiquer, à ce moment-là, c'est la femme elle-même, ce sont les femmes en groupe qui se réapproprient la membrane. Toutes les façons de se réapproprier la membrane. Et c'est pour ça que j'ai décliné les façons modernes de se réapproprier la membrane. Alors, d'accord. Il y en a une qui est évidemment toutes ces demandes de reconstitution d'hymen qui
mais
sont...
Mais ça se passe où, quand c'est...
C'est aujourd'hui en France. Oui. C'est aujourd'hui en France. C'est souvent en milieu musulman, mais pas seulement en milieu musulman. De reconstitution d'hymen, considérant que cette chose-là a été faite de manière indue, sans qu'elle soit au courant, sans qu'elle sache à quoi elle s'engageait, ou bien c'est qu'elles sont sorties de la possibilité d'être mariables, en quelque sorte. Ça, ce sont essentiellement les femmes musulmanes qui ont des revendications de cette sorte-là. Mais toujours est-il que, quelle que soit la raison, elles se réapproprient la membrane et elles disent « c'est moi qui suis libre d'en disposer comme je veux ». Et ça, c'est les histoires de reconstitution d'hymen. Et évidemment, il y a toutes ces questions autour de la naissance des femmes et de qui est, qu'est-ce qu'elles revendiquent en fait, hein, et surtout autour de leur nom. Et c'est là où ça, je me suis interrogé sur le nom femmes, parce que j'ai regardé beaucoup pourquoi elles ont choisi ce nom-là, femmes. Femmes est un, ben oui, c'est un nom bizarre parce que c'est pas du latin. Enfin, en latin, si elles avaient choisi femina. Féminin, ça va, la femme, quoi. Hein. Elles sont des femmes. Elles sont des femmes et elles revendiquent d'être des femmes à part entière. Non, elles choisissent femmes. Moi, je m'explique ça d'une seule manière. C'est que femmes, ça veut dire précisément... ça a un sens en latin, hein, femmes. Hein. Ça veut dire soit le giron, soit la cavité, en fait. Hein. Soit la cuisse, en fait. Hein. Comme je suis né... entre les cuisses de ma mère, quoi. C'est dans ce sens-là, quoi. Femen, c'est ça que ça veut dire en latin. Mais moi, je pense que c'est plutôt une espèce de combinaison entre féminin et hymen, en fait, hein, et qu'ils ont constitué ce mot-là en disant « nous sommes les propriétaires de notre hymen ». À ce moment-là, elles peuvent se montrer nues, puisque la membrane est à l'intérieur et qu'elles en disposent, en fait. Hein.
Elles sont propriétaires de leur peau, donc.
C'est-à-dire, elles ne risquent pas d'être... On risque pas de les prendre, puisque la membrane, à l'intérieur, est toujours protégée. C'est comme ça que j'ai compris les choses, et je pense que c'est une vraie discussion de fond, en fait, qui était évoquée ici. C'est la réappropriation du sexe de la femme par le mouvement politique féminin, en fait. Et je trouve que c'est un événement cosmique, moi, je trouve, aussi important que l'apparition de la Vierge à Medjugorje.
Je vais vous passer la parole, parce qu'il nous reste 20 minutes pour les questions éventuelles que vous pouvez avoir, et puis s'il n'y a pas assez de questions, nous reprendrons la parole tous les trois. Vous avez des porteurs de micro qui vont descendre par les allées parallèles, là. Et quand vous avez le micro, vous êtes gentil, vous vous levez pour qu'on puisse vous voir. Est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière sur la salle, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Alors, qui demande la parole ?
Bonsoir. C'est une question pour Monsieur Tobinathan. Cette histoire d'hymen qui est une histoire de voile et tout, je trouve ça extraordinaire, mais enfin, les femmes qui avaient une liberté sexuelle, elles devaient aussi avoir des enfants hors mariage. Or, le mariage est quand même une coutume qui date depuis longtemps et qui est bien faite pour pouvoir effectivement encadrer cette histoire de naissance. Je n'imagine pas que la liberté des jeunes Grecs n'ait pas eu de conséquences, comme je ne peux pas non plus imaginer que les jeunes Grecs, les jeunes mâles, déflorant une pucelle, n'avaient pas sous les yeux la trace de ce qui s'était passé. Donc il y a quand même quelque chose là que je trouve un petit peu... J'aime beaucoup votre histoire de voile, hein. Je trouve ça extraordinaire, cette histoire de voile qui enveloppe, etc. Mais la réalité concrète, où elle est là-dedans, si je peux
me permettre.
Vous
voulez dire qu'il a évacué le sang?
Ben, il a évacué le sang, il a évacué l'enfant, il a évacué beaucoup de choses qui sont quand même des conséquences de l'acte sexuel et de l'acte premier sexuel. Bon,
j'ai le droit de répondre quand même. Hein.
Ah ben, oui, non, mais c'est une question. Je demande, par rapport à ce que vous avez dit, qu'est-ce qui se passe avec cette réalité-là?
Bon, alors attendez. D'abord, je ne sais pas si je vous ai donné l'idée d'une société grecque totalement libre. Ce n'est pas du tout le cas. Hein. Ce n'est pas ça du tout. Hein. C'est simplement la jeune fille, Parthénos, celle qu'on appelle Parthénos, la jeune fille. On l'appelait Corée aussi, mais Parthénos, ça veut dire elle est déjà pubère, quoi. Elle est propriétaire de sa sexualité, hein. Mais elle n'est pas encore sous le voile de l'hymen, en fait, hein. C'est celle-là, Parthénos. C'est comme ça qu'ils désignent leur divinité, Athéna et Parthénos, hein. C'est pour ça que elle est au Parthénon, justement. Et Athéna et Parthénos, Artémis et Parthénos. C'est ce personnage-là. Ce personnage, il est multiple. Soit il appartient à la société des quelques milliers de citoyens, par exemple pour Athènes, qui sont les citoyens vraiment d'Athènes, hein, ceux qui bénéficient de la démocratie, entre guillemets, athénienne, qui a inventé le voile quand même, hein, comme démocratie, je ne sais pas. Vous, les féministes, vous devriez vous révolter contre la démocratie athénienne. Hein.
C'est eux qui ont inventé le voile. Ah oui, parce que les femmes en sont exclues.
Bah oui, elles étaient toutes voilées. Alors, donc, c'était une toute petite minorité. Les autres, elles étaient constituées de qui? Elles étaient constituées des étrangers, des métèques qui vivaient là, des esclaves, beaucoup, des esclaves. Mmh. Celles-là ne tombaient pas sous le même joug, en quelque sorte. Mmh. Maintenant, cette société est une société strictement patriarcale. La jeune fille, lorsqu'elle n'est pas encore mariée, elle appartient à son père et il la donne à marier. C'est lui qui la donne à marier. Et ça, il fait de la politique avec cette jeune fille. Hein. Il fait de la politique, c'est-à-dire il la donne à quelqu'un pour une raison, pour obtenir des avantages en échange, etc. Il fait de la politique. Il fait de la politique avec sa fille, en fait. Hein. C'est ce personnage-là, et soit elle accepte ce rôle-là, et à ce moment-là, elle va passer de l'un à l'autre, en fait. À ce moment-là, les enfants, et vous avez parfaitement raison, les enfants vont appartenir à la lignée du mari. C'est une société patriarcale stricte, de ce point de vue. Ça va, on comprend très très bien la situation. Maintenant, dans cette société patriarcale stricte, on sait que la sexualité féminine existe et on éduque la jeune fille à la sexualité. On ne connaît pas tous les détails de cette éducation, mais on en connaît un petit peu quand même. Et en particulier, c'était les rituels d'Artémis. Les rituels d'Artémis, parce que la jeune fille, quand elle était corée encore, c'est-à-dire jeune fille non pubère, à ce moment-là, on la désignait, vous savez comment on l'appelait ? Une ours. On l'appelait une ours. D'ailleurs, vous avez, au musée d'Athènes, vous avez des visages magnifiques de jeunes filles prépubères, quoi, qui sont magnifiques, qui sont d'une beauté saisissante, et ça s'appelle des ours, en fait. Hein. Mais elles ne ressemblent pas du tout à une ours. Simplement, il y a une sauvagerie, pensez les Grecs, dans cette jeune fille qui n'a pas encore été éduquée, et on lui apprenait, comme on apprenait aussi au Moyen-Âge, hein, aux jeunes filles au Moyen-Âge, à se masturber pour se calmer, en fait. Donc la sexualité féminine, qui est la sexualité masturbatoire, était parfaitement connue. Maintenant, sur le sang, on considérait que le sang provenait non pas de l'hymen qui avait été perforé, mais du fait que l'acte sexuel avait été trop violent, en fait, et qu'il n'avait pas été suffisamment préparé, en fait. C'était ça l'idée. Aristote avait parfaitement remarqué, puisque nous parlons des Grecs, Aristote avait parfaitement remarqué que les femmes éjaculaient aussi. Lui, il dit éjaculer, hein, mais c'est que bon, il y a une humidification de l'appareil sexuel de la femme, bien sûr, et donc elles éjaculaient, et que si elles avaient suffisamment éjaculé, et à ce moment-là, il ne pouvait pas y avoir de sang. Le sang provenait du fait que le rapport sexuel avait été trop violent, le premier rapport sexuel avait été trop violent. C'est comme ça qu'ils expliquaient l'arrivée du sang. Et le sang était tout à fait secondaire. C'est pourquoi je dis, Freud parle d'une période très particulière, une période de temps qui a duré même pas une centaine d'années, qui était une période où la sexualité était devenue folle dans l'Occident, dans l'Occident industrialisé, en fait. Hein. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai répondu sur le tout, mais il y a beaucoup de choses à dire sur cette affaire. Mais vous avez raison, hein, sur vos questions. Bien sûr, vous avez raison.
D'autres questions ? Oui, là-haut.
C'est pour Monsieur Nathan, ma question. En fait, si j'ai bon souvenir de mon université en tant qu'historienne, j'avais Monsieur Vidal-Naquet en tant que professeur que vous devez connaître, et il m'avait tout à fait, il était remarquable, bon. Il nous avait expliqué qu'il y avait des dionysiaques en Grèce antique. Les dionysiaques, c'était...
Les dionysies, vous voulez dire.
Les dionysies, je ne sais plus.
Oui,
parce
des
que
dionysies,
ça fait...
oui.
L'université, vous savez, c'est loin. Donc, les dionysies, à mon souvenir, c'était une nuit où tout le monde dans Athènes, sur les collines d'Athènes, se courait les uns derrière les autres, essayait de s'attraper et de faire l'amour. Voilà. Les esclaves avec les maîtresses, les maîtres avec les femmes de chambre, enfin je ne sais pas, et même les femmes mariées, parthénons ou pas, pouvaient pratiquer ces dionysies. Alors, je voulais savoir si Parthénon, en plus, ça peut avoir un rapport avec partenaire ? Non ? Bon, c'est tout. Voilà, je voudrais, s'il vous plaît, que vous m'expliquiez, que vous m'éclairiez sur ces dionysies et qui corroborent un peu la question de la précédente personne, à savoir que deviennent les enfants de ces relations orgiaques, finalement.
Mais, oui.
Bon, c'est une question complexe, parce qu'il y a plusieurs questions dans votre question. Hein. D'abord, le culte à Dionysos était un culte relativement...
chaste.
Ouais, il était très chaste, en fait. En vérité, il était très chaste. Oui. Mais il renvoie à une mythologie non chaste. La mythologie de Dionysos, ce n'est pas chaste du tout. Le culte lui-même était assez chaste et c'était davantage des regroupements de... Ça ressemblait plus aux francs-maçons, moi, je trouve, Dionysos, le rituel de...
Ah, il y a quand même dans les Dionysies un ou deux symboles sexuels très visibles.
Mais il y a de la musique, il y a des danses, il y a toute une série de choses. Puis on buvait, bien sûr. On buvait beaucoup de lait, en fait.
Il y a le sextoy qui représente Dionysos et qui est dans le vent.
Alors, bon, c'était pas un sextoy, c'était ce qu'on appelait une tiare, c'est-à-dire un bâton avec une pomme de pin au-dessus.
Ben
mais
oui.
Bon, mais c'est un peu gros pour un sextoy.
C'est pas un sextoy moi,
non, c'est un peu gros pour un sextoy. Bon, enfin, donc, et une tiare, c'était un groupe, en fait. Hein, c'est-à-dire que tout le monde était derrière ce bâton, ceux du même groupe. C'est des constitutions de groupe, en fait, les dionysies réelles. Maintenant, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais j'imagine que votre enseignant, M. Vidal-Naquet, a dû vous parler des bacchantes d'Euripide qui racontent ça, qui est la question de, enfin, mythologique, quoi, l'origine du culte de Dionysos. Mais la pratique réelle de ce qu'on appelait les dionysies, quoi, ce qui se passait une fois l'an, pendant une semaine à peu près, qui était une fête de printemps, en fait, hein. Et cette pratique-là, était relativement chaste et c'était pas ça s'appelait une orgie. Orgie au sens réel du mot, au sens fondamental du mot, ça veut dire une initiation à des mystères. C'est ça que ça veut dire orgie. Alors, c'est pas forcément des mystères sexuels, sauf que dans les mystères, il y a toujours un peu de sexualité, quoi. Mais c'est un peu dans ce sens-là, si vous voulez. Mais ça contient beaucoup de questions, votre question. Alors, s'il y avait des rapports sexuels, et il y en avait de temps en temps, qu'est-ce que devenaient les enfants ? La question des enfants est assez simple dans la Grèce antique. C'est soit la femme est mariée, et l'enfant, eh bien, c'est le père qui décide. Et il faut faire très attention parce que c'est le père qui peut dire jusqu'à ce que l'enfant bouge, en fait. Hein. Parce que tant que l'enfant n'a pas bougé, pour les Grecs, c'est simplement un arrêt des règles. Hein. À partir du moment où l'enfant bouge, alors à ce moment-là, c'est un enfant et on peut être accusé d'infanticide, en fait. Hein. Donc jusqu'à ce qu'il bouge, c'est le père qui dit on le garde ou on le garde pas. S'il dit on le garde, il devient le fils du père, du mari, quoi, en fait. Hein. Donc, de toute façon, il y a plein d'enfants qui naissent qui ne sont pas les enfants biologiques des maris. Mais ça, bon, je veux dire, c'est... Et alors, quoi ? Bon, c'est pas plus grave que ça, quoi. Bon, voilà, donc ça c'est pour la question des enfants. Maintenant, je crois qu'il y a une autre question dans votre question, et qui est une question plus profonde. C'est que c'est vrai qu'il y avait ce qui est devenu après... Les Saturnales et les Bacchanales au moment de l'Empire romain, c'est plus les Grecs, c'est après. Et là, il se passait à un certain moment un retournement d'un ordre patriarcal trop étouffant. Et une fois dans l'année, il y avait une sorte de carnaval, en fait, et où on s'accouplait à l'aveugle, en fait. C'est pas tout à fait à l'aveugle parce que en fait, on mettait des masques hein, et on se reconnaissait. Enfin, celui qui voulait reconnaître, il reconnaissait. Donc, il y avait des accouplements comme ça et c'était une sorte de soupape. Mais vous savez que cette chose-là existait dans l'Atlas marocain encore.
En Chine.
Ça existe en Chine, ça existe un peu partout. Une fois par an, on appelait ça la nuit de... Je ne sais plus comment on disait dans l'Atlas marocain, mais c'est une nuit particulière comme ça. Et durant cette nuit... Eh bien, c'était une sorte de réparation aussi pour toutes ces choses, ces femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Alors, est-ce que c'est les femmes ou est-ce que c'était leur mari qui ne pouvait pas avoir d'enfants ? On ne sait pas. Et puis après ces nuits-là, eh bien, des enfants arrivaient là où il n'y en avait pas. Et c'était bien comme ça. Bon, voilà ce que je peux vous dire.
Ma voisine me dit que ça arrive encore en Allemagne.
Ça existe. Oui.
Ah, c'est vrai?
Pas dans toute l'Allemagne, mais oui, il y a un retour de ces, j'ai failli dire comices agricoles, enfin de ces grandes fêtes agricoles. Il y a un retour de ça, oui, quand même. Assez récent, hein. C'est toute une période de l'histoire où ça n'a pas eu lieu. D'autres questions?
Non.
Il nous reste 10 minutes.
Alors, ma voisine qui ne veut pas parler, je fais ça comme traductrice. Les femmes coupent la cravate des hommes alors ça doit être symbolique, hein, elle leur coupe la queue finalement, voilà.
Non, elle leur délie le col.
Elle leur coupe la cravate. Elle a habité en Allemagne longtemps.
Oui, là, on a vraiment, il y a une interprétation féminine. Il coupe la queue et une interprétation masculine délie le col. Hein. On ne peut pas être plus clair. D'autres questions ?
Non, je t'en prie.
Je voulais demander, est-ce que lorsque Jésus est né, il y a eu du sang sur le drap ?
Ben non.
Tu permets que je pose la question quand même. Prenez le micro, Elisabeth, s'il vous plaît.
La Vierge est connue pour être un être sans sang. Et ça, c'est encore un truc très très bizarre. C'est Il y a un thème récurrent depuis l'Antiquité, enfin depuis le IVe siècle, mais on le trouve pendant toute la période médiévale, décrite dans certains textes comme n'ayant pas de sang.
Jésus n'ayant pas de sang.
Non, la Vierge, hein, la Vierge n'ayant pas de sang. La Vierge n'ayant pas de sang. Non, dans certains textes, hein, c'est mineur. Mais c'est un thème qu'on rencontre souvent, et je l'ai entendu prêcher, ce thème, chez les franciscains à Medjugorje, m'a beaucoup, beaucoup étonnée, et je ne sais pas très bien quoi en faire. C'est très, très, c'est très bizarre, mais c'est marginal, mais c'est un thème récurrent depuis le IVe siècle.
C'est logique. Elle n'a pas de sang, donc elle ne peut pas saigner à la naissance de l'enfant.
À la naissance de l'enfant, voilà. Je ne sais pas trop quoi, ce qu'on peut faire de ce truc.
Bonsoir. Alors moi j'avais deux questions. On a donc je suis ici, pardon.
Ah oui, merci.
On l'a juste envisagé sur la précédente intervention de la virginité masculine. Si voilà, si vous aviez une petite chose à dire dessus. Et puis l'autre question, c'était par rapport au mouvement No Sex dont vous avez parlé en conclusion, Toby Nathan. Donc notamment aux États-Unis. En France aussi. Comment on explique un peu l'ambivalence entre la virginité valorisée et en même temps souvent associée à un mouvement un peu réactionnaire?
Ah oui, vous voyez les balles de jeunes filles en blanc, etc.
Oui, c'est ça.
Oui.
Bon, alors moi je ne suis pas rentré dans ces histoires de réactionnaires et pas réactionnaires parce que je ne sais pas qui sont les réactionnaires. Ça change tellement vite en ce moment. Alors moi, je ne sais pas. Donc, No Sex, c'est le mouvement en lui-même qui est apparu d'abord aux États-Unis, mais qui fait tache d'huile et qui est aussi extrêmement présent en France, et a des aspects qui sont des aspects religieux traditionnels, c'est-à-dire ça avait quand même une valeur, enfin, etc. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, ce n'est pas tellement ce rattachement avec ces aspects religieux traditionnels, mais avec des éléments beaucoup plus modernes qui sont la rétention sexuelle est une liberté, et que cette liberté, elle se conquiert, et c'est comme ça que ça se présente en tant que mouvement idéologique, et mouvement idéologique qui peut être soit réactionnaire, c'est vrai, quand ça se rattache à des histoires religieuses anciennes, soit pas du tout réactionnaire et pas du tout religieux. C'est pour ça qu'il s'appelle tout simplement No Sex, hein, le mouvement. Et ça, je trouve que ça fait partie de ces mouvements modernes qui se constituent sur Internet, en fait, qui constituent les groupes sur Internet et qui se répandent à une vitesse sur l'ensemble de la planète qui est extrêmement étonnante et où on a beaucoup de mal à saisir. Qu'on a beaucoup de mal à saisir avec nos vieilles catégories réactionnaires, pas réactionnaires, en avance, révolutionnaires, etc. Je pense que c'est des mouvements, des vrais mouvements. Hein. Bon, je ne sais pas si je vous ai répondu. Moi, j'ai une question aussi. Je peux poser une question? Je voudrais poser une question parce que je veux profiter de la présence d'Elisabeth. Donc, moi, j'ai lu son livre à l'époque. J'ai regardé à nouveau, sachant qu'elle venait, et j'ai compris une partie qui est ce qu'elle a exposé qui était lumineux tout à l'heure, c'est-à-dire que la Vierge est par nature réparatrice puisqu'elle répare toutes les horreurs qu'a commises Ève, quoi, hein, parce qu'elle en a commis beaucoup plus que ce qu'on raconte en fait, hein, et donc elle vient comme une nouvelle Ève en quelque sorte, et que c'est pour ça qu'on lui demande de réparer, ça c'était lumineux. Mais pourquoi est-ce qu'elle apparaît? Alors, parce que dans ton livre, quand je me souviens de la démonstration dans ton livre, elle est dans un mouvement d'apparition depuis le début, en fait. Depuis le tout début du christianisme, elle est dans un mouvement d'apparition et elle n'a pas fini d'apparaître, en fait. Hein. On ne sait pas encore quand est-ce qu'elle apparaîtra vraiment, quoi.
Il y a une chose très curieuse, c'est que quand elle apparaît, elle est plus jeune qu'au moment de sa mort. C'est-à-dire que dans la tradition, il y a une de sa bibliographie populaire, elle est morte à 55 ans. Ah bon? Et oui, il y a une très longue tradition, parce que les filles qui racontent sa vie, puisque évidemment le Nouveau Testament n'a pas de prétention, de description biographique, et donc il y a eu une série de voyantes depuis le Moyen-Âge qui la voient, qui ont des visions d'elle, et la Vierge leur dicte sa biographie. Ça, c'est une tradition qui date du début du Moyen-Âge, et on a nombre de biographies de la Vierge par toutes sortes de voyantes, y compris récentes comme Catherine Emmerich ou encore plus récemment Maria Valtorta, etc. Et toutes donnent, elle est connue dans les milieux, dans ces types de milieux, comme étant morte à 55 ans. Mais quoi qu'il en soit des reconstructions positivistes de son âge, etc., ce qu'on a toujours dit, c'est qu'elle apparaissait jeune. Elle apparaissait jeune, plus jeune que l'âge à laquelle elle est. Et donc, ça, c'est ça, une de ses qualités de réversibilité. Une des questions qui se pose à son propos, c'est pourquoi est-ce qu'elle revient avec un corps et quel corps après la mort. Et un des tests que font passer aux apparitions les babas locales, enfin les experts locaux, c'est toujours quelque chose qui a à voir avec son âge. Avec son âge, un peu comme pour les enfants soldats, il faut qu'elle ait moins de 15 ans. Et je pense que ça, c'est à voir avec Parthénos. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'elle est Parthénos et la Nikée. Elle est celle de la victoire. Cette victoire, c'est parce qu'elle n'a pas de sang. Cette victoire, c'est parce que celle qui revient de la mort, parce que son corps a été fait hors du péché originel, celle qui peut écraser le serpent. Donc, il y a beaucoup d'apparitions tous les jours. Je travaille dans un réseau de gens qui travaillent sur ces questions. Et ce qui est intéressant, c'est celle qui marche et celle qui rate. Pourquoi est-ce que certaines apparitions marchent et d'autres ratent? Et donc, les types d'épreuves qu'on fait passer, que les experts locaux font passer aux apparitions, sont très intéressantes à regarder. Et très souvent, il faut qu'elles sont prêchées, celles qui marchent, pour leur qualité contradictoire, c'est-à-dire vierge, mère, jeune fille, enfin mère compatissante, guerrière, celle qui va armer nos soldats, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est ce thème de revenir de la mort plus jeune, c'est ça le principe de l'apparition, savoir quelque chose avec des cycles très profonds de l'espérance, de la vie biologique, en fait, etc., etc. De ce que c'est que d'être vieux, de ce que c'est que de naître, de ce que c'est que ces choses-là. Mais surtout, le grand thème que portent les apparitions, y compris dans les sphères orthodoxes où elle apparaît en rêve plutôt qu'en chair et en os, si je puis dire, c'est vraiment la question de sa capacité de tout ce qu'elle montre dans son corps, dans ses actes, tout ce qu'elle offre de possibilités de réversibilité. Voilà.
Une dernière question, oui, monsieur. Voulez-vous relever le doigt si... Non, attendez d'avoir le micro. Merci beaucoup.
Merci. Quel est l'avis de Marie après la naissance de Jésus? Parce que il paraît que des historiens ont dit qu'elle avait eu des enfants. Est-ce qu'elle est restée cette vierge, entre guillemets, sans, etc. Ou est-ce qu'elle a eu une vie normale? Enfin, je ne sais rien. Voilà.
Merci. Alors, la question des frères de Jésus, et donc d'enfants que Marie aurait eu avec Joseph. Fait partie de la controverse parce que c'était compliqué de travailler, alors ça c'est un autre bout de la controverse, de travailler l'exceptionnalité du Christ. Est-ce qu'il fallait pour l'exaucer, cette particularité de l'enfant Jésus, il y a eu des périodes où on a travaillé plutôt sa fraternité, toute la ressemblance qu'il pouvait avoir avec n'importe quel homme, et dans ces théologies-là, depuis toujours, il a des frères. quand on travaille, ça dépend vraiment ce que il y a eu une série, parce qu'évidemment entre le deuxième siècle et le XIXe, il y a eu beaucoup de controverses. Et la question des frères de Jésus est présente dans la controverse pour montrer les théories qui mettent un accent fort sur l'incarnation, c'est-à-dire sur la co-fraternité de Jésus avec l'ensemble de l'humanité. Quand on veut travailler plutôt son caractère divin, on lui enlève ses frères, parce que on ne veut pas de Marie, même après, pour des raisons d'économie sexuelle très très curieuses. Et est-ce qu'elle a ses règles, voilà. Et ça relancerait des questions qui casseraient le raisonnement inverse, si vous voulez. Donc, à chaque un des points de la controverse des frères et sœurs, des frères de Jésus, entre dans la controverse générale de quoi il est fait, comment il a été fait, etc. Et de la matrix. Il faut que la matrix soit une matrix nova. Donc il ne faut pas que ce soit une matrix qui fasse ce que font un tas de matrix, vous voyez. Ou si, ça les, mais c'est toujours congruent. Chacune des parties qui veut défendre le type de Christ qu'il veut avoir monte son truc structurellement toujours de la même façon. Donc il y a avec et sans frère selon les camps.
Attendez, vous reprenez le micro, s'il vous plaît, pour parler. Bisexuel, vous avez dit ?
Non.
oui, elle, vous savez qu'on
on
représente...
On considère qu'elle a eu une vie sexuelle ou pas ?
Avec Joseph, oui, mais il y a toujours des systèmes d'atténuation. Il ne faut pas que ce soit une sexualité débridée. Donc, vous savez qu'on représente toujours Joseph comme très, très, très vieux, avec un bâton, etc., vieux comme tout... etc. Bon, ce qui une façon de dire sans le dire que sa sexualité n'est plus qu'elle n'est pas
extraordinaire. Ça exclut rien du tout.
Même un petit peu, il y en a eu.
Pas dans ce marqueur là.
Oui, la dernière cette fois, hein, parce qu'on est. On est
mais c'est une question qui est c'est pour ma curiosité personnelle, hein. C'est-à-dire puisqu'elle est apparue et qu'elle continue à apparaître à Medjugorje. Est-ce qu'on a appris des nouvelles choses sur elle depuis ses apparitions ? Est-ce que... Ben oui, parce que les apparitions nous permettent de compléter le tableau, au fond. Hein. Est-ce qu'on a appris de nouvelles choses sur la Vierge ?
Il y a une Myriana, une des voyantes, qui s'appelle Myriana, parle avec la Vierge et lui demande à nouveau sa biographie. Et cette biographie sera révélée à la mort de Myriana. Donc je te dirai tout.
Il va falloir
attendre. Elle a 45 ans.
Merci à vous d'être resté présent. Permettez-moi
une petite question. Je peux poser juste une toute petite question.
Non, je suis désolée. Il est vraiment trop tard. Je voulais simplement signaler que nous aurons comme grand témoin Robert Tamayon dans le même lieu vendredi à 18h30. Robert Tamayon est la grande spécialiste du chamanisme de Sibérie. Voilà. Merci beaucoup.
Ça ne faut pas rater.
Oui, comme il dit, ça ne faut pas rater.